Alors ce matin, on se réjouit ensemble à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité, merci Seigneur. Et j'aimerais qu'on commence avec deux versets qui se trouvent dans Hébreux 13, 20 et 21. C'est la fin de l'épître aux Hébreux. Donc presque les dernières paroles. Et il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est incroyable, je trouve, la parole de Dieu, de voir que dans deux petits versets, là, il y a tout un enseignement plein de richesses, plein de vérités spirituelles. Quelques mots de conclusion, mais tout un message. Il est dit d'abord que Dieu est un Dieu de paix. Et la paix, c'est quelque chose de vraiment précieux. C'est une chose précieuse que la paix. Quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, là, actuellement, ils étaient en paix, ils travaillaient, voilà. Et maintenant, c'est au bord de la guerre civile, de l'angoisse, de la peur. Quand vous regardez un foyer qui se déchire et un couple qui se dispute, mais ça devient vraiment difficile dans une vie de couple. Et à ce moment-là, eh bien, on se dit, mais la paix, qu'est-ce qu'elle est précieuse. Ou simplement quand c'est un voisin, quand vous entendez plus avec votre voisin d'à côté et que ça devient même pénible d'être chez soi. C'est difficile, vraiment difficile. Et on voit que la paix, c'est quelque chose d'important. Au commencement, il y a eu la création. Retenez ce mot, création. Le premier couple, Adam et Ève, ils vivaient dans la paix, dans une paix qui était parfaite. Ils étaient heureux, ils étaient purs, ils étaient libres, dans une paix vraiment complète. Et on peut dire qu'ils étaient comblés. Comblés par la création que Dieu avait faite, comblés l'un par l'autre, Adam et Ève, et puis comblés dans la relation qu'ils avaient avec leur Créateur, ils avaient cette vie libre avec lui et sans ombre. Mais à ce moment-là, un nuage est passé, et puis ils sont tombés dans la désobéissance, ils ont pris du fruit de l'arbre qui était interdit. Ils avaient tout pour être heureux, ils étaient en paix, mais ils se sont volontairement tournés vers ce qui était interdit. Dieu leur avait dit, ne prenez pas de cet arbre. Création, eh bien c'est devenu la rébellion. En fait, ils se sont rebellés contre leur Créateur. Et là, tout s'est enchaîné très vite. Le jardin d'Éden ne leur suffisait plus. Même dans leur couple, eh bien, ça commençait à ne plus aller. On s'accusait l'un l'autre. C'est pas moi, c'est lui ou c'est l'autre. Et la communion avec Dieu, elle s'est brisée. À ce moment-là, eh bien, on peut dire que la paix s'est enfuie de leur foyer. Mais Dieu ne les a pas abandonnés dans leurs conditions. Dès les premières paroles du livre de la Genèse, tout de suite, on voit que Dieu parle pour dire qu'il va intervenir pour racheter l'homme, pour sauver l'homme de sa rébellion, de sa faute. Et c'est ce qu'on appelle la rédemption. Création, rébellion, rédemption. Dieu a choisi de racheter l'homme. Et cette rédemption, elle s'est opérée à Golgotha. C'est là que Dieu a décidé de descendre et de venir payer lui-même pour les péchés, pour les fautes de l'homme, pour la rébellion de l'homme. Dieu est venu, il a pris le prix du jugement, il l'a payé, en vertu de quoi il veut offrir une restauration. Création, rébellion, rédemption, restauration. Et ce matin, eh bien, on va parler de la restauration. Pâques, c'est l'histoire de la restauration. Parce que la résurrection, c'est la résurrection d'un homme déchu, d'un homme pécheur. L'homme va naturellement vers la mort. Il est conduit vers la mort et la séparation de Dieu pour l'éternité. Mais parce que la rédemption a eu lieu par Jésus-Christ, alors Dieu veut offrir à l'homme le pardon. Et Dieu veut restaurer sa relation avec lui. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé un arbre spécifique, c'était l'arbre de la vie. connaissait, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et cet arbre, il était destiné à leur procurer la vie éternelle. S'ils mangeaient de ce fruit, ils allaient vivre éternellement. Mais après la chute, Dieu a empêché l'homme de prendre de cet arbre, parce que Dieu ne voulait pas que l'homme continue à vivre éternellement, mais dans sa condition maintenant de pécheur perdu. Mais par la mort de Jésus, Dieu veut accorder de nouveau la vie en abondance, la vie éternelle. Et ça, c'est l'espérance que Jésus nous a laissée lorsqu'il est mort et ensuite qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est nous donner une espérance de vie. Si Jésus s'est relevé d'entre les morts, c'est pour nous accorder, nous donner la certitude de la résurrection, de vivre éternellement. Dans notre verset d'Hébreux, il est dit que le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Jésus est ressuscité. Et il s'est montré dans un corps qui était transformé. Il est apparu, dit la Bible, à des centaines de personnes. Et même, à un moment, il y avait 500 personnes qui étaient réunies, et Jésus est apparu à ces 500 personnes qui étaient là. Et dans ce contexte-là, pour l'époque, ni les plus perplexes, ni les plus hostiles n'ont pu contester la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont bien essayé de dire « Oh, mais c'est les disciples qui l'ont enlevé, etc. » Mais ce n'est pas ce qui est resté. Même quand vous lisez les historiens de l'époque, ce n'est pas ce qui est resté. Parce qu'ils n'ont pas pu s'opposer à cette vérité, à cause de tous ces témoins qui disaient « Il est ressuscité, il est ressuscité, je l'ai vu !» Il était vraiment ressuscité. Lorsque Dieu ramena le grand berger des brebis, il est écrit que ce fut par le sang d'une alliance éternelle. Jésus a versé son sang sur la croix et ce sang était le sang d'une alliance. Ça veut dire que Dieu était en train de contracter une alliance avec l'homme pécheur, avec ceux qui avaient cru en lui, c'est-à-dire qui avaient cru dans le Messie dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, avec ceux qui était en train de croire en lui alors qu'il était là, ressuscité, et puis avec ceux qui allaient croire dans le futur, c'est-à-dire nous, qui allions croire en Jésus ressuscité, il a contracté une alliance éternelle. Ça veut dire que Dieu s'engage, c'est merveilleux ça, Dieu s'engage vis-à-vis de celui qui veut croire en lui. Dieu s'engage, c'est l'engagement de sauver vraiment celui qui croit en lui. Les hommes ont bien du mal à tenir leurs engagements. Ils ne les tiennent pas toujours ou pas souvent. Mais quand le Créateur s'engage, ben lui, il s'engage vraiment. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il fait, il le fait vraiment. Alors Dieu s'engage et il veut faire deux choses. Et c'est ces deux choses qu'on va voir ce matin. La première, c'est nous sauver. C'est-à-dire nous accorder la résurrection de notre corps. On va tous mourir, mais Dieu veut s'engager à ressusciter notre corps, à nous redonner un corps transformé, un nouveau corps, et donc de vivre après la mort, de vivre éternellement dans ce nouveau corps. Et la deuxième chose qu'il veut faire, il veut nous sanctifier. C'est-à-dire, il veut nous amener à une transformation intérieure, en sorte que nous vivions de la vie du ressuscité. Ressusciter notre corps et nous transformer pour qu'on vive de la vie du ressuscité, qu'on ait une nouvelle vie, une vie qui soit transformée, une vie qui est nourrie, qui est animée par la vie de Jésus. Et dans l'alliance faite en son sang, Dieu s'engage vraiment à faire ces deux choses en nous, au travers de nous. Ça, c'est sa volonté, c'est son désir pour nous. Donc on peut dire que la résurrection de Jésus, c'est la promesse de notre résurrection physique future et notre résurrection déjà maintenant, si on veut eh bien, vivre pour lui. Parce qu'il y a un mais. Il y a un mais. Dieu a tout préparé. Il a tout préparé d'avance, si bien qu'il a envoyé son Fils a payé pour nos péchés. Il a mené une vie parfaite, sans péché, Et pourtant, il a payé pour nous qui étions coupables. Et ensuite, il est ressuscité. Ça y est, tout est accompli comme il a dit lui-même sur la croix. Mais pour que ça se réalise, ces deux choses dans notre vie, il faut que nous, on donne notre accord. Il faut qu'on donne notre accord. Dieu ne va pas nous tordre le bras pour nous sauver de force. Il faut que nous, on dise, je le veux, Seigneur. Je le veux. Si on dit, Seigneur, sauve-moi. Oui, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Alors Dieu le fera. Dieu le fera à ce moment-là. Mais il faut un accord de notre volonté. Donc d'abord, premièrement, pour la question d'être sauvé, il faut un accord de la volonté, de notre volonté. Dieu ne va pas forcer un homme et le mettre dans le paradis, dans l'éternité, et le forcer de vivre avec lui. Si l'homme n'a pas envie de vivre avec Dieu, Dieu le laissera loin de lui. Donc il faut une décision qui soit personnelle. La résurrection pour la vie éternelle, elle n'est pas automatique. Et contrairement à ce que Michel Polnareff a chanté, non, nous n'irons pas tous au paradis. On n'ira pas tous au paradis. Daniel 12, verset 2. Il est dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Et ce verset nous parle de deux résurrections. Il y a deux résurrections. La première, elle est destinée à ceux qui vont vivre éternellement dans la présence de Dieu. Ce sont ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la justice, le royaume de la sainteté, le royaume du bien, le royaume de la vérité, le royaume de l'amour, de la fidélité. C'est le paradis, le royaume de la joie aussi. Et puis, il y a une deuxième résurrection qui est destinée à ceux qui seront séparés de Dieu pour l'éternité. Ceux-là, ils vont ressusciter dans un corps. Ils auront un corps comme nous, mais un corps différent. Et eux, ils vont ressusciter pour la honte. Il est dit la honte éternelle. C'est ceux qui ont fait le choix des ténèbres. En repoussant l'offre de Dieu, ils ont choisi le péché sous toutes ses formes. Ils ont choisi l'indépendance, ils ont choisi la rébellion, ni Dieu ni maître. Et ils sont voués aux ténèbres. Ça signifie que tous les hommes vont ressusciter, tous, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui rejettent Dieu, même ceux qui croient qu'après la mort, c'est la mort, on est bien mort, et il n'y a plus rien, et on devient poussière. Et bien même eux, ils vont reprendre un corps, ils vont ressusciter, les uns pour la vie, les autres pour le jugement, la honte éternelle. Maintenant, ce qui détermine la résurrection que nous allons chacun connaître, c'est le choix. C'est le choix personnel. Dieu dit dans l'Ancien Testament, et j'aimerais juste vous lire des versets, deux versets dans un passage, il dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien ». La mort et le mal. Et il ajoute, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Donc Dieu associe la vie, le bien, la bénédiction. Et puis de l'autre côté, il associe la mort, le mal et la malédiction. Et il termine en disant, c'est devant toi, choisis la vie, afin que tu vives, si tu veux vivre. Fais ton choix, fais, vas-y, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu souhaites, choisis. Il y a donc un choix à faire. L'homme doit faire un choix en connaissance de cause. Si Dieu dit choisis, c'est qu'on peut vraiment choisir. C'est en notre pouvoir. C'est une capacité inhérente à l'homme. Parce que Dieu nous a fait avec une intelligence, à son image. Il nous a fait avec une volonté. Et donc avec cette capacité de s'auto-déterminer et de choisir. Donc Dieu veut nous sauver. Lui, il a tout préparé d'avance pour que le salut soit possible. Le seul obstacle qui empêche et qui empêchait d'entrer dans le ciel, c'était notre péché. C'était le fait que nous avons une nature coupable et nous ne faisons pas le bien, pas toujours le bien. Mais Dieu a réglé cette question du péché. Il l'a réglé. Il s'est incarné, il a vécu une vie parfaite, une vie sans péché, et ensuite il a subi le jugement des coupables, des pécheurs, alors que lui, il n'avait rien fait de mal. Et donc, il a pris notre place et Dieu a jugé notre péché sur son Fils Jésus-Christ. Donc, il a réglé la question du péché. Votre péché, il a été jugé sur Jésus-Christ. Il a subi le jugement que nous méritions. Donc, c'est réglé. Mais il faut encore que nous choisissions la vie. Il faut le choisir. C'est un petit peu comme si moi, je vous donne ça, je vous tends quelque chose, et puis vous ne le prenez pas. Si vous ne le prenez pas, ben, je vous l'aurais tendu, mais vous ne l'aurez pas pris. Eh bien, Dieu dit pareil. Il dit, voilà, je te donne la vie. Choisis-la. Mais il faut la prendre. Il faut la vouloir. Il faut s'approcher de lui sincèrement et dire, oui, je veux avoir la vie. S'il te plaît, sauve-moi. Aie pitié de moi. Je me repens de mes péchés. Je reconnais mes fautes. Je crois en Jésus-Christ ressuscité. Sauve-moi. Il faut qu'on choisisse. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ben c'est nous tous, c'est vous, c'est moi, c'est quiconque. Il suffit d'invoquer et le Seigneur nous sauvera. Un autre verset, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça signifie que s'il y a la repentance, la confession, et s'il y a la foi, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Je te sauverai, en fait. C'est une promesse. Dieu dit, je vais te sauver. Donc la repentance et la foi nous mettent au bénéfice de la résurrection de Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont repentis et qui ont cru vont vivre éternellement. Ils vont avoir part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, dit la parole de Dieu. Hein. Il dit, encore, c'est l'apôtre Jean qui dit ça, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. C'est-à-dire, la mort définitive, éternelle, loin de Dieu, n'a point de pouvoir sur eux. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ça, c'est la première chose que Dieu veut faire pour nous. Il veut nous sauver vraiment du jugement et de nos péchés qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Le jugement est au-dessus de nous. Mais il y a une deuxième chose que Dieu veut faire pour nous. Il veut nous sanctifier. Si vous n'avez pas encore fait ce choix de donner votre cœur à Jésus-Christ, de vous repentir, alors, eh bien, cette deuxième partie ne vous concerne pas encore. Mais vous pouvez faire le choix. Vous passerez par la première et la deuxième. Mais ici, deuxième chose, c'est que Dieu veut nous sanctifier. Il y a eu la création, il y a eu la rébellion, il y a eu la rédemption, et maintenant il y a la restauration. Dieu veut restaurer celui qui a choisi Jésus-Christ pour sauveur. Et cette restauration, c'est la sanctification. Regardez de nouveau Hébreux 13, 20 à 21. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et la résurrection du corps est une chose, mais Dieu veut aussi transformer notre cœur, il veut en quelque sorte le ressusciter, hein, de manière à ce que l'on soit capable de faire la volonté de Dieu. Notre nature pécheresse en nous, cette nature mauvaise, fait qu'il est difficile de faire tout ce qui est agréable à Dieu. Il y a comme une résistance en nous qui s'oppose à la volonté de Dieu. Mais parfois, on voudrait, mais il y a quelque chose qui nous empêche de faire le bien. Cette résistance, la Bible l'appelle la chair. La chair ou la mauvaise nature, donc, que nous avons héritée d'Adam. Et Paul décrit d'une manière très pratique ce que c'est dans son épître aux Romains. Il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et ça vous est tous arrivé. Vous faites quelque chose, et après vous dites « Mince, je regrette d'avoir fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû le faire. » Et pourtant, on l'a fait. Ou bien d'autres fois, on se dit « Mais j'aurais pu faire ça, c'était bien. » Et puis je ne l'ai pas fait. Un combat qu'il y a en nous et cette mauvaise nature qui nous pousse à ne pas faire le bien et à faire le mal que nous ne voudrions pas faire. Et on peut dire que le péché, cette mauvaise nature, nous tire vers le bas et nous empêche d'être parfait en amour, parfait en fidélité, en pureté, en générosité, en altruisme, en bonté. Même alors que nous avons cru en Jésus-Christ, le péché ou la nature pécheresse nous tire encore vers le bas. Elle va nous pousser à la désobéissance, nous pousser à céder à la tentation, ou à mal agir, ou à mal réagir. Mais si Dieu a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, c'est aussi pour nous accorder la délivrance du péché. La puissance de la résurrection, ce n'est pas simplement pour le futur, une fois que nous serons morts et que Dieu va ressusciter nos corps, mais la puissance de la résurrection, c'est aussi déjà pour maintenant, alors qu'on vit dans la chair et que l'on croit en Jésus-Christ. Dieu veut nous donner un nouveau cœur, des nouvelles manières d'agir et de nous comporter, de nouvelles habitudes. Romains 6, versets 3 à 7. Romains 6, versets 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Et dans ce passage, on apprend plusieurs choses pour celui qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a fait le choix vraiment de Jésus-Christ pour Seigneur, pour Sauveur, dans sa vie. Paul dit que pour celui qui a cru, son vieil homme, sa vieille nature a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Donc, quand Dieu a permis que Jésus-Christ prenne nos péchés sur la croix, il n'a pas simplement pris nos mauvaises actions pour les juger, mais il a pris notre mauvaise nature, il a pris notre vieil homme et il l'a crucifié, Dieu l'a crucifié avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le jour où nous avons choisi Jésus-Christ, la puissance du péché a été terrassée, écrasée, brisée par la puissance de Jésus-Christ, par la présence du Seigneur dans notre cœur. Et la vieille nature ne peut pas tenir devant la résurrection de Jésus-Christ. Jésus domine complètement le vieil homme. Paul dit « Le péché a été réduit à l'impuissance ». Et le terme ici, si on va chercher derrière le terme dans le grec, ça signifie que Dieu l'a privé de force, privé d'influence, privé de pouvoir. Ça signifie que le péché a été neutralisé. Neutralisé. Il y a un épisode dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament. Donc c'est la conquête du pays de Canaan. Josué est avec Israël, ils sont en train d'avancer en Canaan, en train de conquérir le pays, et il y a des rois impies, des rois méchants, des rois qui faisaient des sacrifices d'enfants, que Dieu avait décidé de juger par Israël. Et donc Josué va réussir à vaincre ces rois, et il va prendre plusieurs de ces rois, il va les amener à terre, et il est écrit, « Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Et le fait de mettre ses pieds sur les coups des rois, c'était un signe très fort qui montrait que maintenant, la puissance n'était plus entre les mains de ces rois. C'est fini. Ils étaient écrasés. Et de la même manière, si nous avons cru en Jésus-Christ, le péché, le corps du péché a été réduit à l'impuissance par la mort de Jésus. Ça veut dire que Dieu a désormais la puissance de tenir le péché sous ses pieds. Et sous ses pieds, si c'est sous ses pieds, eh bien ça peut être aussi sous nos pieds, si on est lié à lui, en lui. Alors c'est aussi sous nos pieds. Dieu peut donc changer complètement notre cœur en sorte que le caractère de Jésus puisse apparaître, qu'il puisse apparaître en bonté, en amour, en bienveillance, en sainteté. Dieu peut tenir la chair sous ses pieds, peut vivre en nous. Mais de la même manière que pour être sauvé, il faut faire le choix, il faut dire « Oui Seigneur, je le veux », eh bien, de la même manière, si on veut que Jésus vive en nous, il faut dire « Oui, je le veux Seigneur », il faut faire le choix de l'autre côté. Parce que ce n'est pas automatique. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut un accord de notre volonté pour que Dieu puisse opérer pleinement cette sanctification dans nos cœurs. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 5 du chapitre 6. Donc Romains 6, verset 5, où il dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et ce verset dit que si nous, chrétiens, nous vivons en conformité avec la mort de Jésus, alors Dieu va nous faire vivre aussi dans la conformité à la résurrection de Jésus-Christ. Pour le dire autrement, si on s'identifie dans la mort de Jésus, alors eh bien, on va connaître aussi la résurrection. Et d'une manière concrète, si je me consacre à Jésus-Christ, chaque matin, chaque jour, à chaque instant, si je lui offre mon cœur et j'accepte de mourir pour que lui y vive, alors Dieu va nous faire vivre de la vie de Jésus ressuscité. Sa vie va transparaître, l'apôtre Jean dit, et nous marcherons comme lui-même a marché. Ce qu'il dit dans son épître, premier épître. Alors, eh bien, on comprend cette parole de Jean-Baptiste qui est sur le mur, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que lui, il prenne de la place, de l'ampleur et que moi, je disparaisse, que je ne sois plus pour que lui soit tout. Aujourd'hui, on voit les adolescents qui aiment certaines, surtout les adolescents, mais parfois les adultes aussi, qui aiment certaines stars, les chanteurs et tout ça. Alors ils adoptent la même coiffure, ils adoptent les mêmes vêtements, les mêmes gestes, les mêmes paroles, parfois même les mêmes tatouages, ou se font un tatouage de la personne sur le bras. Mais ils sont toujours différents de ces personnes-là. Ils font du mimétisme, en fait. Ils essayent de mimer et de faire comme eux. Et Dieu aurait pu nous demander de faire du mimétisme de Jésus-Christ. Simplement du mimétisme. Vous faites exactement pareil, et voilà, les mêmes gestes, les mêmes paroles, etc. Mais Dieu avait un plan qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus parfait pour que nous lui ressemblions. Il avait prévu de nous donner son esprit et que son esprit entre dans notre cœur et que l'esprit de Jésus transparaisse en sorte que ce soit plus nous, mais Jésus lui-même en fait, l'esprit de Jésus. Alors là, c'est parfait. Là, il n'y a rien à dire. Hein. C'est lui. C'est lui. Si on mime simplement, alors ce n'est pas Jésus qu'on voit. C'est l'homme. On voit l'homme qui mime. Par contre, si on laisse l'esprit de Jésus vivre en nous, alors eh bien, c'est Jésus qui transparaît. Et là, on voit Jésus et on ne voit plus l'homme. Il est dit, hein, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et donc Jésus ressuscité va vivre en nous. Mais ça, ce n'est possible que si on choisit de mourir et de vivre et de le laisser vivre en nous. Et on revient sur cette importance de faire le choix de vivre pour Jésus. De la même manière que Dieu ne forcera personne à croire en Jésus pour son salut, Dieu ne tord pas le bras pour l'obéissance. Il va nous pousser, il va essayer de nous montrer que c'est le meilleur chemin, mais il ne va pas nous tordre le bras. Et on peut vivoter la vie chrétienne pendant des années, et parfois des décennies où on vivote la vie chrétienne, au lieu de la vivre de la vie du ressuscité. Et le but du Seigneur, c'est vraiment de nous délivrer de l'esclavage du péché, en sorte qu'on soit libre et qu'on marche avec lui. Mais ce n'est que celui qui est mort et qui est libre à ce moment-là du péché. Pour certains, on peut mettre 20 ans à apprendre ce qu'un autre va apprendre en 2 ans. Comment c'est possible? Et c'est le choix. Comment il est possible que certains n'hésitent pas à se consacrer, ils veulent se consacrer, et puis d'autres, ils n'ont pas très envie de se consacrer. Alors, eh bien, on met ça derrière. On relègue ça derrière. C'est le choix. C'est la liberté. On a un libre arbitre. On fait des choix. Mais après, eh bien, il y a aussi des conséquences. Hein. C'est valable pour l'éternité. Est-ce qu'on souhaite vivre avec Dieu? Vivre avec lui pour l'éternité, avoir la vie éternelle, vivre dans la lumière et dans la vérité, dans le bon, dans le vrai, dans le pur. Alors il va falloir eh bien, que devant Dieu, on soit vrai, on soit pur et qu'on confesse la réalité de notre cœur, de notre péché, qu'on soit vraiment transparent. Et alors Dieu nous accueillera si on croit en son Fils mort pour nous. Il a payé, il a réglé la question du péché, il nous sauvera. Et puis c'est valable ensuite pour la vie chrétienne, si on en fait le choix. Qu'est-ce qu'on souhaite pour notre vie avec Jésus? Est-ce qu'on veut conserver notre vie ou est-ce qu'on veut lui offrir? Il y a ce verset dans Jean 12, 25, c'est Jésus lui-même qui dit « Celui qui aime sa vie la perdra. » Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. C'est fort, ça. On a le choix. Et c'est pour tous les hommes, ça. Qu'on n'ait pas cru en Jésus jusqu'à présent, ou que l'on ait déjà cru en Jésus et on ait déjà donné son cœur. Celui qui veut conserver sa vie, il va la perdre. Et celui qui dit « Seigneur, je la cède », il va la retrouver. Dieu va vous donner la vie et la vie en abondance. Jésus est ressuscité pour nous accorder la résurrection, sa résurrection. Sa résurrection, la résurrection future de notre corps et puis la résurrection présente aujourd'hui de notre cœur. Mais tout repose entre nos mains. Et je termine simplement avec ce verset. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, ou bien la mort et le mal, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives.